Vous écoutez Bac FM, on est mercredi matin, on est parti pour votre rendez-vous ciné, c'est tous les mercredis matin, chaque semaine, on est parti.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Monster !
Et on est parti ensemble pour aller une bonne demi-heure. On va évoquer le cinéma. Alors le cinéma à travers un film que Laetitia va sortir de son grenier tout à l'heure. Parce qu'elle est avec nous derrière cette vitre, réalisatrice
Salut
et chroniqueuse
Théo.
De l'émission. Bonjour Laetitia, comment ça va?
Eh ben ça va bien.
Je commence à parler avec cette voix-là parce que tu vas nous faire peur tout à l'heure.
Ouais, je vais vous faire peur toute la fin d'émission.
Avec un slasher, c'est ça?
Oui, c'est ça.
On peut dire ça?
C'est ça.
C'est un
tout
slasher.
À fait.
On va évoquer bien sûr ensemble les films sortis au ciné Mazarin cette semaine. Il y en a 4 et il y a le retour d'une famille culte française. Mm. Oh, je spoil pas beaucoup parce que de toute façon tout le monde est déjà au courant. Je pense qu'il n'y a pas une chaîne télé qui n'en a pas parlé. De cette sortie événement qui a fait beaucoup d'avant-premières, notamment dans la Nièvre.
Et ça a cartonné. Hein.
Ouais, les avant-premières qui ont énormément marché. On aura l'occasion d'ailleurs en parler avec mon invité de 13h tout à l'heure, Emmanuel Dumont, chargé de communication pour CNewQuanon. Voilà le programme. Il y a aussi un biopic. Il y a un ours anglais qui va aller au Pérou aussi. Ça, c'est dans les sorties de la semaine. Et puis un film qui te plaît beaucoup, Laetitia.
Oui, et il sera aussi question d'une famille. Elle est moins célèbre que la première.
Oui, c'est vrai, exactement. Ouais, ouais.
Dans un
avec,
autre genre.
Avec une manière de tourner un point de vue assez étonnant, ouais. Assez original. On aura l'occasion d'en parler juste après les infos, et les infos c'est tout de suite.
Respect, robustesse, Caius c'est plus. Alors, les nouvelles sont bonnes?
Et justement, dans les projets qu'on va évoquer, il y a un projet d'envergure pour François Ozon. Alors après, quand vient l'automne, pour lequel Hélène Vincent est nommée au César 2025 de la meilleure actrice d'ailleurs, et film tourné à Donzy, eh bien le cinéaste français va mettre en scène, écrire et produire une adaptation du roman d'Albert Camus. Letty, est-ce que tu vois lequel ça peut
Alors,
être?
Alors ça peut être La Peste,
non.
Ça peut
C'est
être...
son premier roman.
Alors, le premier roman d'Albert Camus...
L'étranger.
L'étranger de Camus.
Exactement, l'étranger.
Oh, les vieux souvenirs de lycée.
Vous me ferez un résumé du livre pendant les vacances? Je le fais jamais. Le tournage, il devrait commencer au mois d'avril au Maroc, d'ailleurs. L'étranger, c'est le premier roman donc, d'Albert Camus, qui est paru en 1942. Et puis, il a fait partie de la tétralogie, le cycle de l'absurde. Alors, il s'agit du troisième roman francophone le plus lu au monde, après Le Petit Prince de Saint-Exupéry et 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Alors on va suivre Meursault, ça c'est l'histoire du roman.
Ouais.
Meursault, un homme qui semble indifférent aux émotions, le décès de sa mère, une relation avec une femme et même un meurtre, rien ne lui procure l'émotion. Alors la question, bien sûr, qui jouera le rôle de ce personnage étonnant? Il n'y a aucune fuite pour l'instant qui a été évoquée sur le casting. Aucune date de sortie non plus n'a été annoncée, mais l'adaptation de l'étranger devrait sortir dans nos salles courant l'année 2026.
D'accord.
Ça va bien, en plus, avec le genre de François Ozon, qui aime mettre des personnages en décalé avec leur temps et décalé avec ce qu'on peut retrouver habituellement dans le genre humain. C'était un petit peu le cas d'ailleurs aussi avec Quand vient l'automne. Hein, d'ailleurs.
Mais moi, je garde un très bon souvenir des romans de Camus. Hein.
Ouais, c'est vrai, ouais, c'est des très beaux romans.
Moi, j'avais adoré La Peste.
C'est vrai. Eh ben écoute, peut-être qu'un jour il sera adapté au cinéma par François Ozon, on sait pas, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Peut-être.
Et puis, autre info également, c'est une personnalité engagée, un visage, au même titre que François Ozon, un visage du cinéma français, l'un des visages les plus connus dans le monde du cinéma français. 40 ans après avoir foulé les marches pour la première fois alors qu'elle n'avait que 20 ans, Juliette Binoche reviendra cette fois à Cannes en qualité de présidente du jury, l'actrice française âgée de 60 ans. Elle a été choisie par les organisateurs du plus prestigieux festival de cinéma au monde pour cette 78e édition qui va se dérouler du 13 au 24 mai, à 99 jours maintenant de l'ouverture. Le festival va devoir constituer constituer le restant du jury. L'annonce des films retenus en compétition officielle est attendue à la mi-avril et bien sûr qu'on aura l'occasion, Letty, de l'évoquer ici sur Bac FM. Et on va parler aussi de cérémonie tout à l'heure dans les infos de 13h avec la polémique qui entoure Emilia Perez pour les Oscars et comment Netflix essaye d'arranger tout ça parce qu'ils savent que Emilia Perez peut recevoir beaucoup de prix aux Oscars, des films les plus nommés. Et voilà, il y a une petite histoire avec l'actrice principale, une des actrices principales de ce film, Sofia Gascon, et des tweets qui sont ressortis.
Ça tourne beaucoup sur les réseaux en ce moment.
On aura l'occasion d'en reparler à 13h. Tout de suite, on va se pencher, Letty, sur les films qui sont dispo au cinéma Mazarin depuis ce matin.
C'est pour le cinéma ou la télé ?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
On va commencer avec le film le plus attendu, Letty, on va tout de suite foncer dessus, parce que lundi soir, TF1 est arrivé en tête des chaînes avec la rediffusion du premier film de cet opus qui a rassemblé 3,13 millions de téléspectateurs, 17% de part d'audience. C'est le film d'Olivier Barou qui a séduit tout particulièrement les 15-24 ans. Et c'est la confirmation donc que Les Tuches fonctionnent toujours. Les Tuches 5 réunissent la même équipe que depuis 2011. Jean-Paul Rouve dans le rôle du chef de famille, son épouse Cathy qui est jouée par Isabelle Nanty, l'inérable marmie, mamie Suze, Claire Nadeau et puis leurs enfants et petits-enfants dont Pierre Lottin qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, notamment aux côtés de Benjamin Laverne dans le film Enfant Phare. Le principe reste le même, la famille est propulsée dans un milieu social qui n'est pas le sien, et après les États-Unis et l'Elysée, avec Les Tuches 3, bien, il se frotte maintenant dans le 5 à la noblesse anglaise, bande-annonce.
Papa, le roi t'invite avec toute la famille dans son château en Angleterre.
Dad, en Angleterre, on roule à gauche.
Moi, je suis français, je roule à droite.
C'est du suicide.
Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine, t'as un Français juste en face de nous, là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. Voilà.
Faut qu'on se mette à la culture anglaise.
C'est ça, Big Ben.
Avant le week-end chez les Windsor.
Un petit coucou à ma commu.
Coucou.
Fuck you.
Voilà.
Ça passe pas.
Si, bien sûr, ça passe. Je la connais, ma Nevada. J'ai le combat dans le slip.
Non, y a pas, ça passe pas.
Mais si ça passe.
Voldemort. Oh, regarde, y a le roi.
J'ai l'impression de faire la queue comme à la sécu.
Ladies and gentlemen, Sa Majesté la Reine.
Jeff. Non.
A perdu connaissance.
Mais c'est pas possible. T'as quoi dans ton cerveau, Jeff Tuche?
Tous les invités vont être interrogés par Scotland Yard.
Nom, prénom, qualité.
Jeff Zizou Tuche. En qualité. Je suis rusé comme un tout corps.
Date de naissance?
Le jour de mon anniversaire.
Attendez, stop! Important. Je l'aurais absolu aussi. Fa dièse.
Family, nous allons apprendre les arts de la table. Commençons par les couverts. On utilise d'abord ceux qui sont le plus à l'extérieur.
À l'extérieur de l'assiette, pas de la maison.
Ah ouais, je vous disais aussi. Tu vas manger ton dessert quand ta cuillère est dans le jardin. Ouais.
C'est con, sans déconner. Un beau jour, le fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres. Et c'est donc l'occasion rêvée de traverser la Manche en famille avec un choc culturel et d'immanquable maladresse à la clé, vous l'avez entendu. Et par un concours de circonstances, Les Tuches se retrouvent invités à Buckingham pour rencontrer Charles III, incarné par Bernard Ménez
ouais. Bah oui,
qui incarne toujours les présidents. Lui, vraiment son CV, c'est d'avoir incarné des présidents. Et la recette top secrète donc des frites de Bouzol deviendra un enjeu diplomatique. Le film est réalisé par Jean-Paul Rouve cette fois-ci.
C'est le premier qu'il réalise.
Exactement.
Enfin, le premier Tuche, du moins.
Ouais, c'est ça. Parce que avant, c'était réalisé par Olivier Barou, mais il n'avait pas trop le temps parce qu'il était en train de réaliser la série Pamela Rose, qui dispose sur Canal d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, les Tuches 5 reviennent avec un nouveau réalisateur, mais des images vraiment similaires, une histoire similaire. Voilà, la patte des Tuches reste celle des Tuches, c'est dispo bien évidemment. Au ciné, Mazarin. On va continuer avec un anglais toujours, on continue dans les sagas, avec un ours cette fois-ci dans ce troisième film Paddington part au Pérou. Le célèbre ours britannique traverse l'Atlantique à la poursuite de ses origines, toujours accompagné de la famille Brown. Paddington devient enquêteur et magnanime, une aventure remplie d'embûches qui entraîne Paddington jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. On écoute la bande-annonce tout de suite.
Merci d'avoir choisi Photo Express.
Merci à vous de m'accueillir.
La tête doit être complètement dégagée.
Hein? Ah.
Placez votre visage dans le cercle rouge.
Le cercle rouge, bien.
Première photo dans 3, 2, 1. Oh!
Non, attends. Oh. Chère tante Lucie, j'ai une nouvelle importante. Nous venons te rendre visite. Les Brown vont au Pérou.
Tenez-vous prêts. Il est presque là.
Oh, quel beau bateau.
Hola!
Confortable, sourire, agréable à l'œil et je ne parle que du bateau. Voilà!
Tante Lucie!
Paddington!
On est là! Tante Lucie!
Je crains qu'elle ne soit partie pour une sorte de quête au fin fond de la jungle. Nous ne savons pas où elle est.
Tante Lucie m'a trouvée quand j'étais petit. Maintenant, c'est à moi de la retrouver.
Mais l'Amazonie, c'est très... grand.
On doit essayer.
J'ai la foi. Vous survivrez.
Ça va être marrant. Je pourrais vous montrer d'où je viens.
Nous qui voulions passer des vacances inoubliables.
C'est une impression ou ça secoue un peu?
C'est moi qui pilote le bateau!
Embarqué dans un voyage qui lève le voile sur le secret des origines de Paddington, car bien que naturalisé britannique, Paddington est originaire du lointain Pérou, l'ours préféré des Anglais revient en salle dans un film touchant sur la famille et l'identité, et c'est dispo au ciné Mazarin, l'ours préféré des Anglais mais aussi des Français quand même, parce que
oui,
ça marche très bien.
Ça marche bien en France, Paddington, ouais. Même les diffusions télé en général.
Oui, c'est vrai, exactement, bah, bien sûr, parce que c'est des films pour toute la famille, donc forcément ça marche. Qui est-ce qui double la voix de Paddington? Est-ce que tu l'as reconnu, Letty?
Je l'ai pas reconnu.
C'est Guillaume Gallienne.
D'accord.
Voilà, qui double la voix de Paddington depuis 2014. Voilà, donc c'est à retrouver au ciné Mazarin. On va continuer maintenant avec un biopic. Après Diana Spencer et Jackie Kennedy, le réalisateur chilien Pablo Larraín s'attaque à Maria Calogero Pulos, un biopic intime où il raconte les derniers jours de celle qui a réalisé l'exploit de briser les frontières d'un art jugé élitiste. Recluse dans son appartement parisien, Maria Callas, âgée de 53 ans, ne monte plus sur scène, ne chante plus, solitaire avec pour seul compagnon son majordome et sa gouvernante, la chanteuse déambule dans les rues de Paris à la recherche de sa voix, mais aussi de sa vie perdue. Le film débute par un gros plan où l'actrice chante durant plusieurs minutes. C'est un pari risqué mais réussi hein, grâce à Angelina Jolie qui chante réellement sur le plateau. Afin de ne pas donner l'impression d'un playback, la comédienne s'est prêtée au jeu avec une vulnérabilité déconcertante car c'est en partie sa voix que nous entendons au montage final mixé avec celle de la vraie Maria. Angelina Jolie qui reçoit un très bel accueil hein, pour sa prestation, même titre que le film en général. Scénarisé et ponctué de flashbacks en noir et blanc, le film est dispo et à retrouver au ciné Mazarin. Et puis on va terminer avec une proposition jeune public, les fameux premiers ciné, l'histoire d'une fouine qui voudrait vivre comme elle l'entend, aller de ferme en ferme, jouer de la musique et vendre quelques cravates par-ci par-là, mais les animaux des alentours ne se montrent pas très accueillants. Ça fait partie des trois courts-métrages qui sont disponibles à partir de 4 ans, une guitare à la mer, c'est à découvrir au ciné Mazarin pour un joli moment en famille et une découverte de ce lieu culturel pour les plus petits. Voilà, alors il y a beaucoup de choses aussi à retenir, hein, bien sûr, au ciné Mazarin avec des concerts qui arrivent très rapidement. Il y a celui de Patrick Bruel, le concert au cinéma, deux dates à retenir, 27 mars 20h, 30 mars à 17h, et puis les Chaka Ponk, The Final Fucked Up Tour, une séance unique le 3 avril à 20h. Il y a aussi du spectacle au cinéma, en direct au cinéma, le spectacle Ferrari de sa mère, Le Caplin, le fameux trio, ça c'est le dimanche 18 mai à 16h30, et puis on peut le rappeler, les Baudins viennent au Mazarin, mais ça c'est déjà complet depuis un petit moment, parce que ça fait déjà 3 semaines qu'on en parle,
ouais.
Ici hein, sur Bac FM, et ça cartonne. Voilà, Letty, tout de suite on va passer à ton film du grenier.
Mais est-ce que tu veux pas qu'on présente le film Présence avant?
Ah bah oui, bien sûr, mais oui, ça pourrait être bien, mais bien
tu
sûr.
Tu sais qu'il est dispo depuis aujourd'hui au ciné Mazarin.
Mais bien sûr, je me disais aussi qu'il y avait un petit problème, et on peut parler de Présence, Letty, je t'en prie, parlons-en.
Ouais, tu sais, c'est le thriller horrifique qui va vous faire frissonner en ce début d'année. Présence, c'est un film qui a été réalisé par Steven Soderbergh, et on y suit l'histoire de la famille Paynes, qui est composée de Rebecca, la mère donc interprétée par Lucy Liu.
Oui.
On a Chris qui est le père, on a les deux enfants Tyler et Chloé. C'est une petite famille américaine assez typique qui emménage dans une grande maison cossue dans une banlieue tranquille. Mais voilà, bah, il s'avère qu'ils sont pas les seuls occupants des lieux. La maison, elle est hantée par une entité. Alors jusqu'ici, vous allez me dire, y a rien de bien nouveau en matière de films de fantômes, sauf que si, parce que c'est du point de vue de l'esprit qui hante les lieux que nous est racontée l'histoire. Et tout de suite, eh ben, on va écouter la bande-annonce.
Je connais personne qui est mort. Qu'est-ce que ça fait ?
C'est flippant. Le monde se fissure et tu tombes dans un trou. Tu te demandes où est la personne. Et tu te demandes ce que ça ferait d'être à cet endroit aussi.
Présence, donc, c'est le nouveau thriller horrifique hein, de Steven Soderbergh. C'est à découvrir dès aujourd'hui au cinéma Mazarin. Le film, il avait fait sensation quand il avait été présenté l'an dernier en avant-première au festival Sundance. Et puis, il a été également projeté le week-end dernier au festival de Gérardmer. Et les premières impressions qui ressortent, c'est que Présence, c'est une expérience cinématographique à lui tout seul. En tout cas, il marque le grand retour à l'écran de Lucy Liu, une actrice star des années 90-2000. Hein. On l'avait découverte dans des séries à succès comme Ally McBeal, Urgence, et puis après dans des gros films comme Charlie's Angel, Kill Bill. Quant à l'acteur qui joue le rôle du père Chris, eh bien les fans de la série This Is Us auront reconnu celui qui incarne Toby dans la série. Et puis on peut noter pour finir que c'est pas la première fois en fait hein, qu'un film nous est présenté du point de vue d'un fantôme, puisque outre le célèbre Les Autres d'Alejandro Amenábar avec Nicole Kidman, eh bien il y a eu en 2017 David Lowery qui avait sorti le film Ghost Story.
D'accord, ok.
Et par contre, c'est raconté du point de vue du fantôme, mais ça se distingue tout de même pas mal de Présence, puisqu'il ne s'agit pas d'un film d'horreur, mais d'un drame fantastique, alors qu'avec Présence, on est bien sur du film d'horreur.
Mais c'est intéressant, hein, d'ailleurs, ce point de vue. Moi,
oui, tout à fait.
Ça attise ma curiosité sur un genre de film où j'irais pas spécialement, tu vois, ça, c'est intéressant.
Et il paraît que le film est assez impactant.
Bon, et bien du coup, c'est à retrouver au ciné Mazarin, bien évidemment, âme sensible, s'abstenir, Laetitia. On continue d'ailleurs dans les films qui font peur, avec cette fois-ci C'est la bonne, ton film du grenier.
J'ai une question tout d'abord, est-ce que tu aimes les films d'horreur, Théo ?
Bah pas tellement.
Ouais, bon, je connaissais ta réponse en réalité.
Pas tellement. Tu vois, moi, dans là, la bonne pioche pour moi, c'est les tuches, quoi.
Ouais, bon, bah écoute, ça fait rien, on va quand même parler film d'horreur, puisque je viens de l'évoquer, hein, la semaine dernière se déroulait le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer. Eh bien, j'ai descendu de mon grenier le film qui a reçu le Grand Prix de ce festival en 1997. Aujourd'hui, il est temps que je vous parle de Scream, le film culte de toute une génération devenu une des franchises les plus populaires et les plus lucratives du cinéma d'épouvante, dont le futur et septième volet, d'ailleurs, est actuellement en tournage et fait l'objet de nombreuses rumeurs annonçant le retour de plusieurs personnages historiques qui pourraient bien revenir d'entre les morts pour tourmenter de nouveau Sidney Prescott. Et si je dis de nouveau, c'est parce que ça fait quand même 29 ans que Ghostface s'est invité dans sa vie, hein, cette pauvre fille, donc là ça commence à faire long. Réalisé par Wes Craven, à qui on devait déjà la saga Freddy, le film Scream il arrive en effet dans les salles obscures américaines fin 96, avant de débarquer en France durant l'été 97, où il va connaître un succès retentissant en s'offrant un des plus gros scores jamais enregistrés enregistré à ce jour au box-office français pour un film d'horreur. Aujourd'hui, on revient sur les débuts à l'écran de Ghostface et sur comment Scream va influencer et bouleverser le cinéma d'horreur des années 2000. Mais juste avant, bande-annonce.
Allô ?
Allô ?
Qui est à l'appareil ?
Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien.
Ah, non, pas question.
C'est quoi ce bruit ?
Du pop-corn qui grille.
Moi, j'en mange qu'au cinéma.
Bah justement, j'allais regarder une cassette.
Ah oui, laquelle ?
Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur.
Vous aimez les films qui font peur ?
Ah.
Je ne sais toujours pas votre nom.
Ça vous avancera à quoi de le connaître ?
J'aime bien savoir qui je regarde.
Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu mortel.
Tout a commencé par un appel au secours au milieu de la nuit.
Ce quelqu'un est dingue des films d'horreur. Sa passion pour l'épouvante...
Allô ?
Bonsoir, Sydney.
...l'entraîne très loin.
Tu aimes les films d'horreur ?
Non, non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant.
Dans un film d'horreur, il y a des règles élémentaires à respecter si on veut rester en vie. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Chut, c'est moi. Où que vous alliez, ne jamais dire « je reviens tout de suite » parce qu'on n'en revient jamais.
Je vais chercher une bière, qui en veut une ?
Ouais, je veux bien.
Je reviens tout de suite !
Ce n'est pas lui qui a fixé les règles.
Les flics devraient regarder le bal de l'horreur, ça leur éviterait de ramer.
Mais ils tuent en les respectant. Ne répondez pas au téléphone. N'ouvrez pas votre porte. N'essayez pas de vous cacher.
Tout le monde est suspect. Attention !
Est-ce que tu as peur ?
Scream.
Woodsboro, c'est une petite ville typique de Californie, avec ses jolis quartiers pavillonnaires, comme on en voit dans plein de films. Et un soir, alors que la jeune Casey Baker est seule chez elle, eh bien la sonnerie du téléphone retentit. C'est un homme à l'appareil qui semble s'être trompé de numéro. Alors l'échange est courtois entre Casey et lui, la jeune fille raccroche. Elle se lance dans la préparation de popcorn en vue de sa petite soirée vidéo avec son petit ami Steve. Ils ont prévu de se regarder un bon petit film d'horreur. Mais le téléphone sonne de nouveau et le ton du mystérieux interlocuteur de Casey se fait de plus en plus menaçant. Non seulement il affirme être en train de l'observer, mais en plus il lui fait constater que son petit ami est attaché et baïonné dans le jardin familial. Et si elle veut le sauver, eh bien Casey doit se soumettre à un quiz sur les films d'horreur. Mais la jeune fille, elle se trompe sur une question concernant le film Vendredi 13.
Ah mince.
Et voilà, et Steve et elle sont sauvagement assassinés. C'est par cette scène choc devenue culte que débute le film Scream. Et c'est seulement ensuite qu'on va faire connaissance avec son héroïne Sydney Prescott, puisqu'en fait c'est elle la véritable cible du tueur masqué, le Ghostface. Mais pourquoi ? Est-ce que tout ça a à voir avec l'assassinat de sa mère un an auparavant, hein ? Mystère. Et du coup, entre son petit ami Billy Loomis, sa meilleure amie Tatum, ses copains de lycée Stu et Randy, la journaliste arriviste Gail Weathers qui traîne déjà dans les parages, le supposé assassin de sa mère relâché de prison après avoir été innocenté et son propre père, Sydney ne va bientôt plus savoir à qui faire confiance.
Oui.
Même le proviseur de son lycée ou Dewey, le jeune officier de police, pourrait être soupçonné de se cacher derrière le masque du tueur de Woodsboro, qui semble prendre un malin plaisir à perpétuer ses meurtres en suivant les règles établies par ces fameux films d'horreur qu'on appelle les slashers.
Et d'ailleurs, Scream, c'est un petit peu le renouveau de ce genre du slasher.
Et oui, tout à fait, puisqu'après avoir vécu son âge d'or dans les années 80, eh ben, au milieu des années 90, le slasher, c'est un genre qui est à bout de souffle, qui a plus du tout le vent en poupe. D'ailleurs, à part les suites de grosses franchises de plus en plus ridicules, eh bien, les slashers deviennent denrées rares à cette époque, jusqu'à ce que le maître de l'horreur Wes Craven ne s'associe au jeune scénariste Kevin Williamson et ne dépoussière le genre avec Scream. Et là où Wes Craven et Williamson vont frapper fort et vont avoir un coup de génie, c'est justement en reprenant la bonne vieille recette du slasher, donc avec un tueur masqué qui sème la panique dans un groupe de jeunes gens, mais en en détournant les règles et les codes pour mieux s'en moquer. Et pour ça, ils vont ajouter à leur film une bonne dose d'humour noir et de second degré. Avec Scream, Wes Craven va lancer la vague de ce qu'on va appeler les néo-slashers, et on va alors voir apparaître sur les écrans tout un tas de films qui vont lui emboîter le pas.
Ouais.
Il y aura Souviens-toi l'été dernier, ça c'est le plus connu, il y aura Urban Legend, il y aura Cut qui est australien, il y aura Mortal Saint-Valentin pour en citer quelques-uns, même si le plus culte d'entre tous reste incontestablement Scream avec son fameux Ghostface qui est devenu une véritable icône du cinéma d'horreur au même titre que Michael Myers, Jason Voorhees ou Freddy Krueger.
Et je pense que d'ailleurs le Ghostface c'est le déguisement le plus repris pour Halloween.
Tout à fait.
Ça fait partie des déguisements les plus repris, d'ailleurs ce masque qui a une histoire particulière.
Oui, alors ça maintenant, à peu près tout le monde le sait, le masque de Ghostface avec son immense bouche s'inspire d'une célèbre peinture, Le Cri de Munch. Voilà. En revanche, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que c'est grâce à un heureux hasard finalement qu'il s'est retrouvé en vedette dans la saga Scream. En fait, ce qui s'est passé, c'est que alors que l'équipe du film parcourait les villes de Californie pour repérer les futurs décors de la ville fictive de Woodsboro, le réalisateur Wes Craven, il finit par atterrir près d'une maison abandonnée et là, il va trouver un carton qui est rempli d'objets, qui est posé près du garage, et c'est en fouillant dedans qu'il va découvrir ce masque, qui va devenir le visage iconique du tueur de son film. En somme, c'est presque un cadeau du destin, sauf que problème, le masque en question, qui est fabriqué par Funworld, une société spécialisée dans les déguisements, eh bien il est breveté, et pour l'utiliser, il faut payer des droits que les studios Dimension Films vont juger beaucoup trop élevés, donc ils refusent catégoriquement. Craven va donc demander à une société d'effets spéciaux d'en créer une variante qui se rapproche le plus possible de l'origine. Au total, il y a plus d'une vingtaine de modèles qui sont réalisés, mais aucun ne s'avère convaincant. Craven, il est dépité. Alors, il insiste auprès de Dimension Films pour qu'il recontacte l'entreprise Funworld. Et finalement, eh bien, un arrangement est trouvé pour que les droits soient cédés à l'équipe du film, qui va, comme tu le disais, en faire un des masques les plus populaires au moment d'Halloween.
Porté par un casting fort, hein, d'ailleurs, cette série de films, ouais. Et notamment une héroïne qui a bénéficié d'un changement de casting.
Exactement. Alors, c'est vrai que même si elle est absente de Scream 6, l'héroïne de la saga depuis le premier volet, c'est Sydney Prescott. Et Sydney Prescott, elle est incarnée par Neve Campbell. Mais normalement, c'est une autre actrice beaucoup plus célèbre qui aurait dû jouer Sydney Prescott. Et cette actrice, eh bien, c'est Drew Barrymore. C'est la petite fille dans E.T. Qui, après une adolescence compliquée, recommençait alors à enchaîner les projets, dont celui de Scream. Sauf que peu de temps avant le premier clap de tournage, caprice de star ou agenda trop chargé, Drew Barrymore, elle décide de ne pas interpréter Sydney Prescott. Voilà, elle va lui préférer ce rôle mineur de Casey Baker, qui apparaît pourtant que dans la séquence d'ouverture. Une manière pour l'actrice déjà se chevronnée de surprendre les spectateurs qui s'attendaient pas du tout à la voir mourir dès le début du film. Et d'ailleurs, pour faire la blague jusqu'au bout, eh bien, c'est le visage de Drew Barrymore et non celui de Neve Campbell qui va apparaître sur l'affiche du film. Et film d'ailleurs qui, comme tu le disais, possède quand même un sacré casting, puisqu'on y voit la star de Friends, Courtney Cox, dans le rôle de la journaliste Gail Weather, exactement. On y voit aussi les inoubliables Skeet Ulrich et Matthew Lillard dans les rôles de Billy Loomis et Stu Masher. Matthew Lillard qui pourrait bien figurer au casting de Scream 7. Et puis sans oublier les apparitions d'Henry Winkler, le mythique Fonzie de la série TV Happy Days qui joue le proviseur du lycée de Woodsboro, ou encore de Linda Blair. Et Linda Blair, c'était la petite fille de l'exorciste. Elle, on l'aperçoit vite fait dans le rôle d'une journaliste. Décidément, pop culture quand tu nous tiens.
Ouais, c'est ça, mais on retrouve aussi Jenna Ortega, il y a Emma Roberts.
Alors ça, c'est dans les opus suivants, exactement.
Il
oui.
Y a Mikey Madison aussi qui a cartonné avec Anora, Palme d'Or au Festival de Cannes l'année dernière d'ailleurs.
Il y a toujours de très très beaux castings sur les Scream.
Ouais, franchement. Et Courtney Cox, elle sera aussi à Scream 6 ou pas?
Oh, Scream 7, il y a de fortes chances. Elle a survécu à tout, Courtney Cox, elle est dans tous les épisodes.
Est-ce que Letty, tu connais, est-ce que là tu... Bah alors, je vais pas te demander de les dire parce que forcément tu vas y spoiler, mais est-ce que tu connais tous les tueurs de tous les Scream?
Alors, je connais tous les tueurs de tous les Scream.
Genre, tu serais capable de les citer?
De les citer, alors il faudrait me laisser le temps de réfléchir. Le 1, bien sûr, le 2, oui. Le 3, le 4, c'est un peu plus difficile sur le 6 parce qu'ils étaient plusieurs.
Ah oui,
bon. Enfin, c'était pas la première fois qu'ils étaient plusieurs, mais ils avaient fait quand même un peu fort.
Il y a un dos un peu plus précis à avoir.
D'ailleurs, ça tout se recoupe au final si on regarde tous les épisodes. Ouais.
Mais ça va, une petite soirée saga entière Scream, ça peut être intéressant pour ceux qui aiment l'idée.
Surtout qu'ils sont dispo, les Scream. Ouais, alors, pas tous, mais alors si vous avez Netflix, vous pouvez regarder Scream 1 et Scream 2. Si vous avez Paramount Plus, vous pouvez regarder Scream 1, Scream 2, Scream 3, Scream 5. Donc c'est pas mal. Et puis sinon les autres, il manque le 4 et le 6, ils sont pas disponibles en ce moment, mais ils reviennent régulièrement. Et puis pour terminer, je voudrais juste signaler que sur Max, il y a un documentaire qui s'appelle L'éventreur de Gainesville aux origines de Scream et qui raconte l'histoire de Danny Rowling, le tueur en série qui a inspiré le film. Et c'est très intéressant.
Ah mais c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une autre vision donc de cette saga.
Exactement.
Culte. Merci Letty, merci à toi de nous avoir présenté ce film du grenier. On se retrouve, c'est quoi les rendez-vous là à venir? revenir sur bah qu'il y a du monde tout
à l'heure. Écoute, il y a Culture en vrac, on va retrouver d'abord Gaëtan qui va nous parler de l'expo avec Christophe Woods.
Oui, bien sûr.
L'expo qui démarre là actuellement à la maison. On aura également des nouvelles de la réouverture de la maison et puis on aura Hugo ensuite qui viendra nous parler de l'actu du Café Charbon et plus précisément des projets en cours.
Et nous on se retrouve à 13h avec les infos de la mi-journée et mes invités pour continuer de parler cinéma. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur. Et action.